France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Sitôt qu'on prononce le mot harem, surgissent des images de femmes lascives et cloîtrées dans l'attente, impatientes ou inquiètes de leur sultan despotique. Alors que le Maroc vient de présenter une réforme profonde aujourd'hui de son code de la famille, réforme qui concerne le mariage des mineurs, la polygamie et l'héritage, rencontre ce soir avec l'historienne Jocelyne Dahlia pour évoquer, au-delà de l'actualité, son formidable travail de recherche intitulé « Harem et sultan, genre et despotisme au Maroc et ailleurs, 19e et 20e siècle » qui tente à déconstruire ce cliché et surtout à l'historiciser. Alors comment s'est forgée cette vision, une vision occidentale d'un monde islamique oppressif, aussi bien du peuple et des femmes que l'image du harem cristallise, et comment le nuancer, voire la corriger? Pour en parler donc, l'historienne Jocelyne Dahlia, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, je le disais, anthropologue également, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes membre du Centre de recherche historique, spécialiste de la Méditerranée musulmane et du Maghreb. Merci à vous d'être présente ce soir dans Question du soir.
Madame, monsieur, bonsoir. C'est un pas décisif vers la concrétisation d'un nouveau code de la famille pour notre pays. Sa Majesté le roi Mohamed VI a présidé aujourd'hui une séance de travail consacrée à la question primordiale de la nouvelle Moudawana qui s'inscrit dans la continuité de celle de 2004. Ainsi, après la présentation de la méthodologie de l'instance chargée de la révision du code de la famille devant le souverain et des conclusions du Conseil supérieur des oulémas par le ministre de la Justice, le souverain en sa qualité de Emir al-Mu'minin, commandeur des croyants, a appelé le Conseil supérieur.
Alors il faut nous expliquer, Jocelyne Dahlia, ce que c'est que cette nouvelle Moudawana, ce code de la famille au Maroc. De quoi s'agit-il exactement?
Bien, il s'agit de la troisième réforme du code de la famille. Donc la dernière réforme remontait à 2004. Et c'est une évolution nouvelle, une série de propositions, je crois qu'il y en a 16, et ça apporte des avancées, notamment en matière de droit du divorce pour les femmes. La tutelle sur les enfants sera plus paritaire, les femmes ne seront plus contraintes d'abandonner la garde de leurs enfants si elles entendent se remarier. Il y a également des avancées en matière de mariage des mineurs, puisque on apporte des limitations, des dérogations sur le mariage des filles mineures. Et par ailleurs, il y a une série de dispositions qui sont prises en matière de droit de la polygamie et de droit de l'héritage, mais qui sont là, pour le coup, beaucoup plus limitées. Et qui suscite des résistances, en tout cas une insatisfaction d'un certain nombre d'associations féministes.
C'est ça, ce que j'allais dire. Les associations féministes sont aujourd'hui relativement dubitatives sur cette réforme de la Moudawana. Est-ce qu'il s'agit pour vous-même d'une réforme importante, profonde, ou c'est seulement cosmétique, si je puis dire?
Oh, certainement pas cosmétique. Tout ce qui peut améliorer notamment la question de la garde des enfants dans le divorce est tout à fait fondamental. Et même si la polygamie est relativement restreinte, d'avoir déjà le souci de réguler ou de réglementer cette question en vue de d'une restriction de fait du mariage polygame, je pense que c'est un progrès, c'est-à-dire qu'on a opté pour un contrat de mariage systématique qui spécifie si les femmes, si la femme épousée accepte ou non une éventuelle coépouse par la suite. Alors ça reprend des contrats de mariage très anciens, mais ça apporte une réglementation restrictive qui peut aller dans le sens d'une abolition à terme de la polygamie. Mais Là, il y a des enjeux religieux qui sont tels que, on est contraint. Les législateurs adoptent une sorte de moyen terme, adoptent une solution d'équilibre qui va mécontenter les conservateurs, qui trouvent qu'on va trop loin, et qui va mécontenter aussi les progressistes et les féministes, qui trouvent qu'on ne va pas assez et qu'il aurait fallu abolir tout simplement la polygamie et instaurer l'égalité dans l'héritage.
Et oui, parce qu'il faut préciser effectivement que les franges islamistes au Maroc, elles dénoncent quant à elles un texte beaucoup, beaucoup trop moderne. Vous avez parlé de temps long, Jocelyne Dakhlia, vous avez parlé d'histoire. Alors c'est ce qu'on va faire avec vous en s'intéressant à cet ouvrage, je le disais, impressionnant, une véritable somme intitulée « Harem et Sultan, genre et despotisme au Maroc et ailleurs ». Et on va commencer avec la voix d'une écrivaine, elle s'appelle Jaili Amadou Amal, elle s'intéresse également au harem justement.
C'est tout le système mis en place il y a plus de 200-300 ans qui continue et que dans ces palais, dans ces chefferies traditionnelles, subsiste encore l'esclavage des personnes qui sont dites d'origine servile, qui acceptent leurs conditions, qui acceptent ce statut et pire, des filles qui sont envoyées dans ces chefferies pour devenir des concubines royales donc, et alimenter le harem. Mais à côté de ça, Bousra, professeure de littérature, doit faire un choix. Qu'est-ce qui est acceptable? Jusqu'où elle est prête à aller par amour? Et on découvre aussi la vie de toutes ces femmes invisibles, ces concubines royales, les soulabées. Et leurs rêves, ce sont des personnes en réalité dont on ne voit pas, qu'on ne voit pas dans nos sociétés, mais c'est tout simplement des jeunes femmes qui ont des rêves, qui ont des désirs, qui ont des frustrations et qui ont juste besoin de liberté.
Nous avons trouvé dans l'équipe de Questions du Soir, Jocelyne Dakhlia, que ce témoignage, plutôt l'explication de ce récit, de ce roman, résonnait énormément avec votre travail, c'est-à-dire remettre de la complexité dans ces espaces que sont les harems et dans les fermes, dans les personnes, dans les femmes qui les peuplent.
Oui, tout à fait. Et de la complexité, j'ai choisi l'angle du politique, plus spécialement. Mais on aurait pu s'intéresser aux enjeux économiques ou à d'autres enjeux d'actorialité dans l'espace public, dans l'espace de la vie sociale.
Pourquoi dites-vous que cet espace, le harem, est à ce point sclérosé par une vision occidentale, néocoloniale, à tel point d'ailleurs qu'on ne voit à peine ce qui se passe réellement dans ces endroits?
Oui, il y a une forme de dépolitisation coloniale, enfin dans le regard colonial en tout cas, un processus, disons, de séparation du monde féminin et du monde masculin, en excluant les femmes, ou en les pensant exclues plus exactement, en les pensant exclues de toute participation politique et en les réduisant finalement à des créatures soit opprimées, soit totalement, en quelque sorte, hors sol, enfin hors du social. Alors que dans les perceptions également occidentales des siècles précédents, disons de l'époque moderne, il y avait une pleine conscience, au contraire, que ces femmes pouvaient être des actrices politiques de premier plan. Et souvent, les protagonistes occidentaux avaient recours à elles pour faire passer des sollicitations, pour plaider leur cause, pour intervenir politiquement, diplomatiquement. Et donc, la naissance du harem, finalement, c'est ce moment de décrochement où on pense que les femmes sont soit une minorité opprimée, soit une population finalement amovible en quelque sorte, qu'on pourrait récupérer, qu'on pourrait s'approprier.
Pourquoi est-ce que l'imaginaire occidental notamment a tendance à lier, à enchaîner ensemble même les notions de harem à celles de despotisme plus particulièrement?
Ce sont des concepts qui ont en commun d'avoir été forgés dans un contexte occidental, voire dans une philosophie politique occidentale. Je pense à Montesquieu, par exemple, même s'il parlait surtout de sérail plutôt que de harem. Donc, d'une certaine façon, ce sont des artefacts occidentaux et Et le harem est vu comme l'appropriation même de la population féminine par le despote, c'est-à-dire comme un acte de despotisme, comme cette contrainte systématique d'un maître sur des femmes traitées comme des esclaves, mais qui n'étaient pas nécessairement des esclaves, ainsi que l'exprime l'autrice que vous venez de citer. Il y avait des femmes libres dans les harems et libres de dans une certaine mesure de leurs mouvements et de leurs actions. Et les esclaves elles-mêmes pouvaient avoir une part de liberté et d'agentivité ou d'actorialité au sens plein.
D'agentivité, c'est-à-dire de capacité à agir par soi-même.
Agir par soi-même ou à agir également pour d'autres, au nom de d'autres acteurs et comme mandatés par eux. Et donc la naissance du harem, c'est en gros le moment où on se refuse à voir cette réalité pour plaquer un autre paradigme sur une société qu'on considère comme inférieure, tout simplement. C'est ce qui se produit au cœur d'un processus impérialiste, essentiellement au XIXe siècle.
Comment est-ce que vous définissez, Jocelyne Dahlia, le concept même de harem ? On apprend, on comprend en vous lisant que ce n'est pas si intuitif et si facile.
Mais tout à fait, c'est un concept, je ne dirais pas un concept mou, mais c'est
un concept vaste, du moins.
Vaste, complexe, il vous file entre les doigts, parce que tout simplement le terme, déjà, ne faisait pas sens dans les périodes passées dans les langues locales, c'est-à-dire qu'on ne parlait pas du harem, on parlait des femmes, des appartements des femmes, on parlait du... Le harem, c'était la population féminine du palais ou la composante féminine d'une grande maison ou d'un palais, d'une maison.
Donc c'est à la fois un espace et un groupe de personnes.
Tout à fait, tout à fait. Et ce n'est que, enfin, pour le cas du Maroc, c'est même de manière très tardive, en gros au début du XIXe siècle, que le terme harem s'est imposé dans les langues européennes, puis qu'il a été peu à peu repris dans la langue locale de manière vernaculaire.
Bon, je voudrais qu'on tente de démonter ensemble quatre idées à propos des harems. Commençons tout logiquement par la première. Les harems ne sont pas exclusivement féminin. Alors là, il faut nous expliquer qui d'autre peuple ces harems.
Tout à fait. Pour nous, il y a une sorte d'évidence que harem renvoie à un monde homosocial féminin. Mais comme je l'ai dit, le harem, c'était la composante féminine d'une famille. Et donc, déjà, les hommes de la famille avaient accès, bien évidemment, à leur mère, à leurs sœurs, à leurs épouses. Donc, il y avait déjà cette composante masculine. Il y avait un certain nombre de serviteurs admis en leur présence, soit parce qu'ils étaient très jeunes, soit parce qu'ils étaient là depuis toujours. Il y avait des eunuques, éventuellement. Des eunuques qu'on associe toujours spécialement aux femmes, mais qui pouvaient avoir des fonctions tout à fait différentes, des fonctions de chef militaire, des fonctions de chef d'administration, enfin, une réalité assez complexe. Et puis, il pouvait y avoir auprès d'elles des maîtres de musique, des intendants, des courtiers. Donc, toutes sortes de personnages masculins, selon la tolérance des maîtres de maison, plus ou moins âgés, plus ou moins émasculés. Mais donc non, ce n'était pas une population exclusivement féminine.
Deuxième idée préconçue, on entrevoit d'ailleurs la réponse après ce que vous venez de dire là. Le harem n'est pas un lieu uniquement dévolu à la sexualité.
Ah bien sûr, pas plus qu'une maison n'est uniquement dévolue à la sexualité, et donc ces femmes étant proches d'hommes de pouvoir étaient elles-mêmes des femmes souvent investi de pouvoir, ou en tout cas crédité de pouvoir, et qui pouvait par exemple porter des commissions, plaider la cause de tel ou tel solliciteur, souvent contre rétribution, et puis elle gérait leurs biens personnels, elle gérait leur fortune, elle pouvait être mécène, elle pouvait être par ailleurs lettrée. Beaucoup de femmes données à des sultans n'avaient d'ailleurs jamais de relation avec lui. Elles pouvaient être redonnées ou elles pouvaient être simplement abandonnées ou simplement reléguées à des fonctions de service.
Troisième idée fausse à laquelle on s'attaque ce soir avec vous, l'idée selon laquelle, pardonnez-moi, le harem serait un espace clos, quasiment carcéral.
Alors, cette image carcérale, elle fait partie justement de cette mythologie du harem qui s'est imposée au XIXe siècle, notamment à travers la peinture orientaliste, mais il y a d'abord toute cette tradition qui m'intéresse beaucoup d'itinérance des sultans et dans leur itinérance les sultans emmenaient souvent une grande partie de leurs femmes avec eux, une grande partie de leurs femmes de leur famille avec eux, et donc on a beaucoup d'illustrations notamment qui nous montrent des femmes à cheval, des femmes en voyage, en chevauchée à travers le pays, et ça me paraît tout à fait important parce que ça rejoint aussi toute une circulation féminine qui est complètement méconnue quand on pense à l'histoire des pays islamiques. On oublie que beaucoup de femmes étaient sur les routes pour les besoins du commerce ou par misère tout simplement ou parce qu'il s'agissait de groupes transhumants. Enfin, donc il y avait toute une circulation féminine et qui était considérée comme légitime.
Et c'est la quatrième idée d'ailleurs à laquelle on voudrait s'attaquer ce soir, peut-être d'ailleurs la plus importante, idée selon laquelle les femmes qui composent le harem n'auraient aucun pouvoir, elles seraient presque sous domination totale des hommes. Là encore, vous tempérez largement cette idée.
Bien sûr, alors il y a toujours une hiérarchie de genre, c'est-à-dire que la supériorité masculine reste un principe structurant dans cette société comme dans d'autres, mais des femmes de pouvoir, il y en a en quantité, et surtout, ce qui m'importe, c'est que j'essaye de ne pas regarder simplement du côté des élites sociales, mais de voir aussi ce que peut être le pouvoir des femmes dans les sociétés villageoises, par exemple, ou à des niveaux sociaux, à tous les niveaux sociaux, disons.
C'est pas seulement les riches épouses et les sultanes.
Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que les femmes sont aussi investies de pouvoir par leur propre groupe. Elles peuvent être missionnées, par exemple, pour négocier une trêve. Parce qu'on pensait qu'il était plus difficile de refuser la supplication d'une femme ou de fermer la porte à une femme ou de la brutaliser. Et donc, beaucoup de femmes, par exemple, étaient envoyées comme suppliantes ou négociatrices par leur tribu dans les situations de conflit avec l'autorité sultanienne. Et donc, non, on ne peut pas considérer que les femmes étaient uniquement des victimes opprimées. Et par ailleurs, il faut revenir aussi sur la démographie de ces périodes et voir que beaucoup de femmes, en réalité, vivaient seules ou passablement seules. Seule ou était veuve, responsable de famille, chef de famille ou vivait de manière autonome comme célibataire. Et donc il y a toute une réalité sociale, si vous voulez, à redécouvrir qui a été masquée notamment en raison de l'iconographie orientaliste qui a privilégié des images de femmes vouées à la sexualité et qu'on représente sous un jour de grande vulnérabilité.
Vous avez commencé à le dire, Jocelyne Dahlia, mais comment est-ce que, en admettant que ces femmes ont un pouvoir relatif, comment est-ce que vous intégrez tout de même dans votre travail, dans votre réflexion, cette question de la domination entre les femmes et les hommes ?
Elle est constante, la domination.
Au sein du harem particulièrement.
Au sein du harem. La hiérarchie de genre n'est pas bousculée, mais ce qu'il faut avoir en perspective, c'est les stratifications sociales au sein des femmes elles-mêmes. C'est-à-dire que souvent, on considère que le harem, c'est un ensemble homogène de femmes qui, en gros, n'auraient pour les distinguer que le pouvoir de la sexualité, leur pouvoir de séduction, c'est ce qui ferait qu'une favorite l'emporte sur toutes les autres. Dans la réalité, ce n'était pas comme ça que ça se passait, c'est-à-dire qu'il y a des statuts sociaux, les femmes pénétraient au harem avec un statut, avec une fortune personnelle éventuellement, avec une fortune familiale, qu'elles pouvaient accroître ou qu'elles pouvaient perdre au cours de leurs années passées dans le palais. Donc il y avait une dynamique sociale interne au palais, mais il y avait une stratification sociale entre les femmes, et donc certaines femmes étaient plus puissantes que certains hommes, et certainement plus puissantes que d'autres femmes auxquelles elles commandaient. Et donc c'est aussi toute cette complexité qu'il faut remettre en perspective, loin de ce schématisme homme-femme.
Alors un autre schématisme quand même auquel vous allez vous attaquer, Jocelyne Darlia, que penser tout de même de la figure de la femme arabe? Est-ce que cette figure, ce stéréotype même colonial diffus, je vous cite, mais tenace de la femme arabe tout spécialement, la femme soumise et sous contrainte conjugale ou patriarcale, vouée au néant social, est-ce que c'est ça aussi l'enjeu de votre démarche, c'est tenter de remettre ça en cause d'une façon très profonde?
Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui a été constant pour moi. Redonner sa dignité à la femme arabe, on peut le formuler comme ça. J'appartiens à une génération qui finalement a grandi peu de temps après la décolonisation, et j'ai toujours été blessée et marquée par tous les stéréotypes, tous les clichés sur les femmes arabes, toutes ces histoires sur les femmes qui devaient marcher devant les hommes pour prendre les mines pendant la guerre d'Algérie, ou qui marchaient à pied lorsque l'homme était monté sur une mule. Toutes ces bêtises coloniales m'ont profondément marqué, je pense, et je vois que ces clichés perdurent.
Comment est-ce que vous l'expliquez, que ces clichés perdurent justement, qu'ils traversent en l'occurrence les siècles et le temps jusqu'à être si vivants et si vivaces aujourd'hui encore?
Je trouve même qu'il y a une résurgence de ce type de clichés, une forme d'appauvrissement de nos concepts et de nos lectures de l'histoire en lien avec les crises liées à l'islam. En tout cas, derrière ces crises liées à l'islam, je vois ressurgir une forme de racisme colonial assez basique. Regardez le mythe de la beurette, par exemple, et sa fortune dans la pornographie. Et donc, ce sont des choses qui blessent profondément, qui me blessent en tant que femme et qui me blessent en tant que femme qui se reconnaît dans une histoire arabe, berbère, maghrébine. Et donc, c'est un moteur, effectivement, de l'énergie qu'il m'a fallu pour écrire ces 2000 pages, redonner sa dignité à la femme arabe.
Je voudrais vous faire entendre la voix de Mohamed Tosi, il est professeur de sciences politiques, responsable de recherche à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence.
L'islam et les musulmans avec font face à un vrai projet de fondamentalisation qui est d'abord politique, et que le rôle joué par le wahhabisme en tant que mode d'expansion mondiale d'une façon de voir l'islam a été dévastateur depuis 69, depuis le premier sommet musulman des musulmans à Rabat, où il y a eu cette prise en charge idéologique par le wahhabisme d'une façon de voir l'islam. Et la violence avec laquelle le chiisme est combattu, et du sunnisme combat, ou une façon de voir le sunnisme combat le chiisme, renseigne sur le caractère très violent de ce projet, le caractère très dévastateur de ce projet. Bien sûr, tout ça, Al-Khoul le dit de façon indirecte, est consolidé encore, à la fois par la convergence entre modernité et cette façon de penser, mais il est consolidé aussi par l'accès du plus grand nombre au texte, Et au texte pauvre, c'est-à-dire au texte pauvre, et donc le rôle de l'école, le rôle de ce qu'on appelle la résorption du gap entre la haute tradition et la petite tradition, le rôle, que, et là je recite Weber, de ce qu'il a appelé les autodidactes, le puritanisme des autodidactes, qui porte justement ce discours pauvre sur l'islam et qui est le discours dominant actuellement.
Comme historienne, Jocelyne Darlia, comment vous-même réagissez à ce qui vient d'être dit là ?
Oui, ce que pointe Mohamed Tozzi en un mot, c'est une forme d'ignorance des textes, mais aussi d'ignorance de sa propre histoire. Et j'évoquais ces préjugés occidentaux ou ces mythes occidentaux du harem, mais il y a aussi des mythes fondamentalistes sur la place des femmes ou sur ce que devrait être la place des femmes. Et donc faire de l'histoire, c'est le meilleur moyen de défaire aussi ces mythes fondamentalistes.
Merci d'être venu à Question du Soir. Merci plus encore, j'allais dire, pour ce travail impressionnant que vous avez réalisé. Je rappelle son titre, hein, Harem et Sultan, genre et despotisme au Maroc et ailleurs, 19e et 20e siècle. Un ouvrage qui est apparu dans la toute nouvelle maison d'édition Anna Charsis. Merci beaucoup d'être venu ce soir, Jocelyne Darlia, à Question du Soir.
Merci à vous.